La Grèce continentale est une région montagneuse et accidentée. Dans les vallées souvent encaissées, les terres cultivables et l'eau sont rares. Au 8e siècle avant notre ère, quelques populations isolées ont formé de petites communautés agricoles à l'intérieur des terres. Mais la plupart des Grecs se massent sur le littoral. Le climat y est plus doux et les sols plus fertiles. Ils peuplent toute la mer Égée. C'est un monde éclaté, fait de comptoirs, de villages et de petites cités. La mer reste pour les Grecs un lieu plein de dangers. Mais ce sont d'habiles navigateurs. Très tôt dans leur histoire, ils ont tissé un réseau commercial qui s'étend jusqu'à l'actuel Moyen-Orient.
La place des Grecs dans le monde méditerranéen du 8e siècle avant notre ère n'a rien de particulièrement remarquable. Ils commercent avec d'autres peuples, d'autres régions de Méditerranée. Ils essaient de rester en bon terme avec les Phéniciens, de s'occuper de leurs affaires et de préserver leur sécurité.
Cette époque est marquée par un mouvement de colonisation. Les jeunes Grecs partent fonder des cités au loin. Et désormais, ils se tournent vers l'ouest du bassin méditerranéen. Il faut bien du courage pour braver des mers inconnues et s'aventurer sur des terres étrangères pour y bâtir une nouvelle vie. C'est à cette époque qu'Homère aurait vécu et inventé le protagoniste d'un périple légendaire en Méditerranée occidentale, Ulysse. Ulysse est le roi d'Ithaque. C'est un personnage vigoureux et intelligent. Héros mythique de l'Iliade, c'est grâce à sa ruse que les Grecs ont pu s'introduire dans la cité imprenable et vaincre les Troyens. Les premiers vers de l'épopée annoncent déjà ce qui attend le héros. Une odyssée pleine d'aventures redoutables. Dis-moi, Muse, cet homme subtil qui erra si longtemps, après qu'il eut renversé la citadelle sacrée de Troie. Et il vit les cités de peuples nombreux, et il connut leur esprit. Et dans son cœur, il endura beaucoup de maux, sur la mer, pour sa propre vie et le retour de ses compagnons. Son odyssée commence lorsqu'il embarque pour son voyage de retour. Avec ses compagnons, il a passé 10 ans devant les murs de Troie. 10 années d'une guerre sanglante, déclenchée par l'enlèvement de la belle Hélène. Encouragé par Aphrodite, la déesse de l'amour, Paris, prince de Troie, a enlevé l'épouse de Ménélas, un puissant roi grec.
Troie est en flammes.
Avec ses alliés, celui-ci veut venger l'affront. Les dieux ont pris part à la guerre de Troie. Certains du côté des Troyens, d'autres en faveur des Grecs. Et quelques-uns, tantôt pour un camp, tantôt pour l'autre. Zeus, le roi des dieux, doit sans cesse s'interposer entre eux. Il leur ordonne de faire preuve de réserve dans cette guerre. Apollon, le dieu de la lumière et des arts, prend parti pour les Troyens. La puissante Athéna, déesse de la sagesse et de la guerre, soutient les Grecs. Poséidon, le dieu des mers, peut provoquer des séismes et faire chavirer les navires. Il est bien disposé envers les Grecs, lui aussi. Du moins au départ. Tout Grec doit faire une libation au dieu des mers avant d'embarquer. Au moment de partir, Ulysse le prie ainsi de lui accorder sa protection. Sa petite flotte quitte Troie et met le cap sur Ithaque, la patrie du héros. Ulysse est couvert de gloire et d'honneur et il repart avec un riche butin. Mais le vent pousse les 12 navires vers le nord-ouest. Ils accostent à Ismar, la ville des Cicones, qu'ils n'hésitent pas à piller et incendier. Les Cicones sont les alliés des Troyens. Ils descendent probablement de colons grecs. Bijoux, vin et viande. Ulysse et ses compagnons embarquent les richesses d'Ismar à bord de leur navire et se partagent les jeunes femmes. Ils vont payer un lourd tribut pour cette razzia. Les Sicones reviennent en force et tuent 72 des meilleurs hommes d'Ulysse. 6 sur chaque navire. Au Cap Malais, l'une des pointes sud du Péloponnèse, la flotte d'Ulysse essuie une terrible tempête. Au lieu de se diriger vers Ithaque, elle s'écarte de sa route. Les vents la poussent vers la haute mer. À l'époque d'Homère, les marins connaissent déjà les vents violents du nord et le courant ouest-est qui domine dans le sud de la Méditerranée. L'Odyssée raconte qu'Ulysse est emporté 9 jours durant sur la mer poissonneuse, jusqu'à la terre des lotophages. La flottille a sans doute abordé la Cyrénaïque, sur la côte de l'actuelle Libye. C'est alors une région fertile, couverte d'épaisses forêts. Les lotophages qui vivent là sont paisibles. Ils se nourrissent d'un fruit qu'ils appellent lotos. C'est une drogue qui prive les hommes de volonté et les fait sombrer dans l'oubli du retour, ainsi que le rapporte Homère. Ulysse garde la tête froide. Il oblige ses compagnons à retourner à bord du navire et donne l'ordre de faire voile vers Ithaque. Près d'un siècle après la transcription de l'Odyssée, des Grecs venus de l'île de Théra abordent les côtes libyennes pour y fonder une colonie. Guidés par les Libyens, les Grecs fondent la ville de Cyrène. Ce sera l'une des colonies les plus florissantes d'Afrique du Nord. Après avoir quitté le rivage des lotophages, Ulysse met le cap sur Ithaque. Mais son odyssée ne fait que commencer. Des vents contraires poussent le héros vers d'autres contrées inconnues. Bien probablement à la pointe sud de l'Italie, en Calabre, sur une côte d'où on a vu sur la Sicile et l'Etna. L'Odyssée évoque une île peuplée seulement par les chèvres. On n'a pas pu la localiser exactement. Elle a peut-être été engloutie par les flots depuis cette époque. Le poète décrit une île fertile et dotée de sources d'eau claire. Mais Ulysse ne s'y attarde guère. Il veut traverser le détroit pour explorer le mythique territoire des Cyclopes. Avec une poignée d'hommes, il s'introduit dans la grotte de l'immense Polyphème, dont il a tant entendu parler. Homère le décrit comme un géant monstrueux, ignorant des lois. Il part à un pic boisé, isolé parmi les hautes montagnes.
Je vais lui parler.
Et il n'a qu'un œil. Ulysse s'est jeté dans la gueule du loup avec ses hommes.
Nous sommes des Grecs et nous
revenons. Le géant les retient prisonniers.
Les vents nous ont égarés sur la mer.
Pourtant,
et nous voici chez
le roi d'Ithaque est venu dans de bonnes dispositions. Il a même apporté de précieux cadeaux. Polyphème dévore sans vergogne 6 des compagnons d'Ulysse. Il compte manger en dernier le héros. Ruse et le courage, Ulysse parvient à sauver sa vie et celle de ses hommes. Ils aveuglent Polyphème et s'échappent. La victoire de l'homme sur la bête est un thème souvent repris sur les vases, les bas-reliefs et dans la statuaire de la Grèce archaïque et classique. Mais l'épisode du Cyclope n'a-t-il pas un autre sens? Il nous livre ainsi de précieux indices sur la vraie nature de Polyphème. Ce qu'Ulysse et ses compagnons désignent comme l'œil du Cyclope, c'est l'Etna, le volcan sicilien. Ils le distinguent parfaitement quand leur navire passe les côtes de Calabre. À l'époque d'Homère, les Grecs connaissaient l'existence de volcans actifs et leurs dangers. On a donc appelé l'Etna l'œil du Cyclope, une expression aujourd'hui tombée dans l'oubli. Polyphème n'est pas seulement un géant monstrueux, c'est aussi le fils du puissant Poséidon. Quittant le territoire des Cyclopes, Ulysse arrive rapidement jusqu'à la demeure du dieu du vent, Éole. Mais à l'époque d'Homère, il y avait sur la côte sud une étendue de terre isolée, devenue depuis une péninsule. Elle forme le cœur de la ville de Syracuse. Au 8e siècle avant notre ère, Syracuse est une jeune colonie en plein essor. La cité est organisée selon un plan rationnel, quadrillé de voies et de pâtés de maisons réguliers. La demeure d'Éole se trouve sur cette île, entièrement entourée d'un mur de bronze. Ulysse se repose pendant un mois chez Éole avec ses hommes. Puis, il fait voile vers Ithaque. Ulysse est aussi responsable du sort de ses compagnons. Comme lui, ils appartiennent à l'élite d'Ithaque. Ils se sont battus à ses côtés et lui ont juré fidélité. 9 jours durant, des vents favorables poussent la flotte vers l'est. Ithaque est désormais toute proche. Éole a fait un cadeau au héros au moment de son départ. Cette nuit-là, persuadé qu'Ulysse cache un trésor, ses hommes ouvrent l'outre en peau de bœuf. Les vents s'échappent. Une terrible tempête se lève et repousse les navires vers l'île d'Éole. Les navires grecs comptent parmi les plus rapides de l'Antiquité. La reconstitution d'une galère d'époque a permis d'établir qu'elle pouvait atteindre 8 nœuds, soit 16 km/h. À l'époque de la colonisation, les navires de guerre grecs peuvent avoir la coque ouverte ou entièrement pontée. Homère ne décrit pas en détail les navires de la flotte, mais il parle souvent des efforts déployés par les rameurs. Les 11 navires de la flotte entrent dans le port, flanqués de part et d'autre par d'immenses falaises. Homère dit que les flots y sont toujours sereins. Seul le navire d'Ulysse est resté au large. Le héros assiste impuissant à la destruction de sa flotte, écrasé par d'énormes rochers jetés par les Lestrigons. Les aventures permettent à Homère d'évoquer un fait courant dans la Grèce archaïque. Les Grecs s'entretuent. Ulysse et ses compagnons n'échappent pas à la règle. Et presque toujours, le mobile est la vengeance. Ulysse est un représentant typique de ces sociétés, mais il est capable de dépasser leur code. Il a le profil du chef d'expédition idéal, et il possède la plupart des qualités requises pour coloniser de nouveaux territoires. Ce périple à travers la Méditerranée est une mise à l'épreuve. Ulysse est un homme extrêmement riche. Selon son fidèle porcher, il possède 59 troupeaux de bœufs, de moutons, de cochons et de chèvres. C'est davantage que tous les héros de son époque, qu'ils soient d'Ithaque ou de Grèce continentale. Ithaque est riche en sources et cours d'eau. La pluie arrose généreusement ses pâturages. L'île d'Ulysse semble paradisiaque. Une montagne remarquable la domine. Le Nériton au bois tremblant. Et elle est entourée d'autres îles, très proches les unes des autres. Selon Homère, Ulysse règne sur un archipel composé de 4 îles, aujourd'hui appelées Zante, Leucade, Ithaque et Céphalonie. Celle d'Ulysse est la plus grande de toutes. Car l'île est située sur une faille, au point de friction entre les plaques égéennes et européennes. La chaîne de Lénos est le résultat de ces mouvements lithosphériques. Des arguments contraires alimentent le débat. L'Ithaque de l'Odyssée est l'île la plus occidentale de l'archipel. Or, c'est le cas de Céphalonie, non d'Ithaque. Autre fait, il se pourrait donc que la ville d'Ithaque se trouve quelque part dans les environs de l'actuelle Argostoli. Céphalonie occupe alors une position stratégique. C'est la porte de la Méditerranée occidentale et la première escale quand on arrive des colonies.